I know how it sounds.
La sex. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la sexploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X en ce magnifique mercredi soir. Quelle belle soirée!
C'est une belle soirée.
C'est une très belle soirée. Et on est en bonne compagnie ce soir, mesdames et messieurs. Sur le live TikTok de la sexploratrice, vous pouvez déjà admirer notre invité hebdomadaire. Mais juste avant de vous le présenter, j'aimerais mettre la table, en fait. On va parler avec notre invité de quelque chose, Max, dont on a discuté hors d'onde, mais que tu étais à l'aise de partager en onde.
Oui, de quoi, là?
Tu t'en poses de porno depuis une semaine?
Mais oui, je t'en pose de porno depuis une semaine. On commence ça raide. En fait, moi, je ne suis plus raide depuis une semaine.
Ah, ben non, mais là, tu compenses par d'autres choses.
Je compense par d'autres choses, effectivement. Ça va faire 7 jours demain que j'ai cessé tout usage de pornographie. Et en tout genre. Ça n'a pas été évident, par contre, sur les réseaux sociaux, de fuir la pornographie parce qu'elle nous envoyait en pleine gueule sans qu'on le veuille.
Ouais.
Avec les reels où est-ce qu'on voit des filles faire des positions plus ou moins suggestives avec des décolletés qui en finissent plus de finir. Donc, du côté des réseaux sociaux, j'ai tenté de fuir ça du mieux que je pouvais, même si on me le foutait en pleine gueule. Mais ouais, pas de porno pendant une semaine.
Mais là, attends un peu, le côté des réseaux sociaux. Toi, tu reçois ça dans ton algorithme, là?
Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais qu'est-ce que... Parce que tu comprends que... Quand tu t'attardes à un sujet ou à quelque chose, ton algorithme va ensuite te pousser.
Qu'est-ce que tu essaies de dire, là?
Ces choses-là. Ben, tu vois, moi, j'ai juste des trucs en lien avec la loi d'attraction puis l'univers. J'ai pas d'affaires sexuelles qui me sont poussées. Et pourtant, je lis quand même beaucoup de choses là-dessus, mais en dehors des réseaux sociaux, là. Mais c'est drôle, hein, quand même.
Mon algorithme est fucked.
Complètement fucked.
Il va falloir que je retravaille ça, mais une semaine, quand même, sans pour nous.
Et bravo.
J'ai vu beaucoup de bienfaits.
Oui.
Et j'ai l'intention de continuer.
Parfait, mais juste avant d'en parler davantage, moi, je veux savoir, mesdames et messieurs, premièrement, venez nous rejoindre sur le live TikTok, La Sexploratrice. Mais pour nous partager vos commentaires, et là, j'aimerais savoir, vous, depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas regardé de porno? 418-670-9098, 418-670-9098. Et c'est le moment de présenter notre invité.
Le doc.
Le thérapeute compatissant, bienveillant.
Bonjour, docteur.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Salut, doc.
Bonsoir.
Docteur Paul Simard, psychologue. Toujours un plaisir de
vous
recevoir.
Merci de me recevoir.
Doc, ouais. La porno comme ça, là.
Mm-hmm.
On peut-tu te demander, toi, ça fait combien de temps? Non.
C'est pas
drôle. On ira pas là.
Bon, ça, moi, je me livre à cœur nu.
Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai déjà essayé, moi, de faire 1 an sans porn.
Oh, tu t'es rendu où?
Ben, je l'ai fait l'année.
Oh! Puis félicitations.
C'était un test que je voulais faire, à savoir si j'étais en mesure de gérer ce comportement-là. Puis effectivement, donc j'ai trouvé ça moins difficile, faire ça 1 an sans porn, que de passer une journée sans Internet.
Ah,
ça, j'ai
oui.
pas été capable. À un moment donné, j'ai fait le test, là, je vais faire un 24 heures sans Internet. Maudit que je trouvais ça difficile.
Ah, oui!
Mais volontairement, dans un environnement où je pouvais là, y avoir accès. Mais quand je vais dans un chalet, puis tout ça, il n'y a pas de problème là, s'il n'y a pas d'Internet. Mais oui, chacun ses défis.
Mais parce que t'es toujours connecté.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, puis en fait, ton travail, c'est beaucoup en ligne aussi.
Moi, je vends
aussi.
Beaucoup la rapidité du service. Hein.
C'est ça.
Fait que les gens qui ont des questions, les gens qui veulent prendre rendez-vous...
Alors, urgence de répondre.
Exact, moi, je suis disponible rapidement.
J'étais comme ça aussi. Mmh. J'étais comme ça, puis là, je suis complètement l'inverse.
Ouais.
S'il y a une urgence, tu m'appelles. Maintenant,
ça, c'est
là, Messenger. Ben, j'ai déconnecté les notifications Instagram, Messenger, ouais. Toutes les messageries. En me disant, je vais y aller 2 à 3 fois par jour, répondre ouais. en masse. Mais là, la fin, là, j'ai perdu le fil, par exemple. Ouais. Parce que j'ai fait des appels à tous pour différents invités ouais. ici, tout ça. Mais bref, c'est ça. C'est pas évident, mais je suis maintenant capable de déconnecter une couple de jours sans problème, mais ça n'a pas toujours été comme ça.
Penses-tu que Max, il y a un délai de temps qui s'est mis en tête ou c'est pour toujours, lui, son
ouais.
Au niveau de la pornographie?
Oui.
Ben, je m'étais mis 7 jours.
Ah, c'était ça ton défi?
Oui, là, j'arrive à 7 jours ce soir.
Et puis?
Le verdict,
ouais.
J'adore ça.
OK, parle-nous donc des bienfaits.
J'ai pas l'intention de retourner en arrière. Les bienfaits, Je vais te dire l'analogie suivante. J'ai l'impression que regarder de la pornographie en termes de masturbation, c'est comme aller au McDo. Se masturber sans pornographie, c'est comme se cuisiner un bon repas, prendre le temps de couper ses légumes, faire revenir sa viande d'emploi avec un peu d'huile, se verser une bonne coupe de vin. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour se cuisiner. Oui, en solo, exact. Okay. Non, mais là, tu sais, je te raconte ça comme travail. Si je passe trois heures à faire ça, mais.
Non, c'est parce que tu peux te masturber en duo, là, avec ta.
Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait, mais en solo, prendre plus le temps de prendre le temps.
Ouais, ça va. Ça change des choses aussi au niveau de l'éjaculation masculine.
Ouais.
Après à peu près 1 à 3 mois, il y a des effets rapportés sur le changement. Parce que le niveau de stimulation qui conduit à l'orgasme, c'est pas obligé d'être si intense, une stimulation vraiment directe qui n'est pas vraiment, on pourrait dire, humanisée. Là. C'est souvent de la pornographie, du morcellement d'un individu. Là.
Exact. Puis j'ai remarqué...
satisfaction rapide.
Oui, tout à fait. J'ai remarqué une autre chose. Bon, mes érections étaient plus consistantes.
Oui.
Oh! Et est-ce que le nombre de fois où tu t'es masturbé a diminué?
Oui.
OK.
Mais, à contrario, ma sexualité dans mon couple, décuplée.
Oh!
J'ai adoré ça. Vraiment.
C'est peut-être des déplacements temporaires, ceux qui sont fréquemment observés.
C'est l'impression que j'ai aussi.
Oui, parce que quand on joue sur ces habitudes, là, tout d'un coup, on cherche d'autres appuis à quelque part. Puis quand l'habitude va être reprise autrement, ce sera peut-être pas forcément aussi vif. Là. C'est pas un transfert de un pour un, on va dire.
Mm-hmm.
Parce qu'on dit dans la culture moderne que c'est bien de se masturber, puis c'est rendu, les tabous sont presque levés sur le phénomène de la masturbation, puis masturbez-vous autant que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais souvent ce qui vient avec la masturbation, c'est le visionnement de pornographie.
Oui.
Donc les deux, je pense qu'il y en a un qui est nocif là, dans l'équation. La pornographie, c'est nocif d'en regarder trop souvent. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai constaté au fil du temps. Ben, alors de décrocher sur une courte période de temps, déjà là, après 7 jours, je vois des bienfaits, je me sens comme... moins accaparé mentalement. Je sais pas si ça fait du sens.
Ah, ouais.
Est-ce que ça t'allume sur quelque chose?
Oui, ben c'est peut-être... Parce qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de consommation de pornographie. Hein.
Non, puis on en a parlé avec Véronique Larivière, justement, là, récemment.
Donc, juste le fait de réenrichir son imaginaire ou ses sensations, ses pratiques masturbatoires avec d'autres choses que la pornographie qui a tendance à être très spécifique. On va aller vers une sorte de stimulation, puis là, le cerveau, lui, il n'est pas habitué de vivre autant de plaisir.
Ouais.
Pour s'ajuster à ce plaisir-là, il fait de l'hyposensibilisation. C'est-à-dire qu'il baisse le seuil de sensibilité au plaisir. Là, la personne a dit, « Ouais, mais moi, je le veux, mon plaisir! » Fait qu'il augmente la dose de stimulation ou vers quelque chose de plus hard. Puis là, le cerveau, il se dit, « C'est pas normal de vivre autant de plaisir. » Il hyposensibilise à nouveau, baisse le seuil de sensibilité. Puis là, un moment donné, ça fait que la personne va s'isoler dans une pratique super intense, puis elle peut s'enfermer là-dedans, voire même jusqu'à créer de la détresse. Là, une sexualité qui n'est plus du tout épanouissante.
Qui n'est même plus pour la sexualité, mais c'est devenu une dépendance.
Exact.
Il y a des gens qui regardent, il y a quelqu'un justement qui commente, qui a trouvé le bon vidéo, il écoute toujours le même depuis un mois.
Ouais.
Ça, c'est fou hein, quand même.
Non, c'est bien, je trouve. Si la personne, elle, c'est quelque chose qui concorde avec son imaginaire érotique... Moi, c'est pas tant la même vidéo que j'aurais le goût de quelque part d'analyser que est-ce que ça répond à un... À quel besoin ça répond, bref?
Oui.
Est-ce que c'est hyper morcelé sur un morceau du corps ou si c'est deux personnes qui se rencontrent? C'est pas la même chose, un acte sexuel et une relation sexuelle.
Ben non, exact. Et il y a quelqu'un qui mentionne sur le live, si on consomme pas de porno, est-ce que ça peut avoir un impact sur notre vie sexuelle? Par contre, je suis très chaude au lit. Ça, c'est... elle s'appelle Annick. C'est elle qui nous partage ça. Annick, c'est parce que, comme moi, j'en consomme pas de porno. Moi, je vais dans mes souvenirs. Dans ce que je vis. Puis quand je suis très amoureuse, notre dernière relation, c'est souvent ça. Si j'ai à me satisfaire, c'est à ça que je pense. C'est fou quand même. Là, t'sais, on n'est pas obligé de toujours regarder de la porno. En fait, la porno est là pour stimuler l'imaginaire. T'apporter dans des fantasmes ou dans des trucs qui vont t'emmener justement rapidement à obtenir du plaisir.
Oui, puis il y a plein de catégories. Hein. Puis une des catégories qui monte de plus en plus en popularité, c'est l'aspect éducatif. Comme par exemple, plutôt que d'écouter du monde qui se fourre l'un dans l'autre de manière brusque et animale, voire même très rough, là, à la place, vous allez voir des catégories éducatives. Comme par exemple, une personne qui va montrer comment elle fait le tantra avec des exercices respiratoires pendant qu'elle fait de la masturbation, de co-sexualité, dans le moment présent.
Okay. Ouais, mais là, il y a des catégories de ça, mais de là à dire qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça.
Mais est-ce qu'il y a
d'autres personnes qui regardent ça?
Ouf. Mais là, on parle de tantrisme et tout ça, ouais. Fait que ça prend des gens qui sont ouverts à ça, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'éducation, par exemple?
Oui, oui.
Ah,
oui. Si vous regardez sur les plateformes très connues, là, la catégorie éducation, il y a de plus en plus de producteurs de contenu qui sont dans une grande authenticité, hein, puis qui font juste un partage de leurs pratiques.
Ah, ouais.
Plutôt que de voir une vidéo de monde qui vont des pratiques un peu rough de BDSM, mais vous allez avoir une personne qui explique sa pratique BDSM en la faisant. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui sont affamés de cette authenticité-là, de cette simplicité-là, sans montage, sans gros zoom sur les organes génitaux, sans des macro-caractéristiques corporelles à l'image, entre guillemets, parfait. Ça réhumanise la rencontre.
Je vais en reparler, là, parce que moi, c'est un site que j'avais bien aimé, là, que je suis quand même allée quelquefois. Belsa.co, qui est un site pas nécessairement féministe, mais qui est géré par des femmes... Et pour les femmes, surtout avec la vision de la femme et pas que la vision de l'homme. Parce qu'en ce moment, ce qu'on retrouve sur le web beaucoup, c'est de la vision de l'homme. Donc, tu vois la femme en train de faire une fellation, mais comme si c'était toi qui la regardais
faire. C'était peut-être ça l'intention, là. Mais
peut-être.
Dans la réalité, ce sont exactement les mêmes producteurs de contenu qui sont sur toutes ces plateformes-là. Donc, moi, je trouve que c'est un peu une idéologie.
Il y a de plus en plus de porno éthique aussi.
Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est une belle idéologie, mais dans la réalité, j'ai pas vu, moi, de différence.
Lire un roman érotique, ça aussi, c'est une bonne idée d'aller vers des lectures. Les histoires à faire rougir, notamment, ou jouissive, là, on a eu Nathalie, Nathalie Anne, justement, qui est venue nous faire une lecture, l'autrice québécoise. C'était excellent. Tu as également Christine... Oui, que j'ai découvert grâce à toi, en fait, sur les réseaux sociaux. Belle découverte.
Christine, qui est
d'ailleurs.
Une actrice là, que jouait dans le truc de dating. Là, comment ça s'appelait? Crossing Bar 2 était là-dedans, d'ailleurs.
Excellente et, comédienne.
Maintenant, elle est rendue autrice. Puis là, elle écrit un trailer érotique.
Oui, un peu à saveur BDSM. Hein?
Oui, un peu.
Ça réagit beaucoup quand même sur la messagerie.
Oui,
là, tu vois, il y a une auditrice qui nous écrit, puis elle nous dit, elle nous confie en fait qu'elle aime mieux lire des livres érotiques, ça c'est ce que tu as dit, mais également écouter des séries érotiques comme 50 nuances de gris, c'est ce qui l'allume plus. J'ai l'impression que le rapport avec la pornographie, s'il est consistant et régulier à chaque fois qu'on est dans une séance de masturbation, ça peut devenir problématique de renouer avec la masturbation sans la pornographie, c'est-à-dire que sans qu'il y ait un lien direct avec les séances de masturbation, ça peut peut-être être une bonne idée pour se détacher de la chose.
C'est parce que c'est tellement
c'est comme
archaïque.
Tout, mais moi, c'est ça, mais c'est comme tout aussi. Je pense que c'est bon d'en écouter. En fait, c'est pas de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais.
Tant que ça vient pas nuire au quotidien, je pense que ça peut être sain d'écouter de la pornographie.
Trop ce comme passé.
C'est ça, exact.
C'est archaïque, qu'est-ce que tu allais dire?
C'est tellement archaïque et primaire à l'intérieur de nous, ce qui nous allume, que ça peut même être difficile de le partager à quelqu'un d'autre. C'est comme s'il y a des gens qui n'ont même pas de mots pour décrire le complexe masturbatoire, la manière de le faire avec le rythme de le faire, la pression de le faire, puis ils sont même mal à l'aise de le transmettre. Puis c'est normal parce que c'est tellement intime comme sujet.
Oui.
Alors que c'est tellement magique quand ça se passe bien par hasard. Wow! Mais
c'est vrai.
Si on veut faire une vraie rencontre, je pense qu'il faut apprendre à connaître nos modes excitatoires, reconnaître qu'il y a souvent des espèces de renforcement ou de patterns qui sont créés à l'intérieur de nous. Puis on appelle ça le complexe sensoriel, ça.
Oui.
De la même manière, de la même vitesse. Puis ça rejoint les trois lois du corps que je t'avais déjà parlé.
Oui, ça, c'était très intéressant d'ailleurs. Il faudrait que je le repartage. Oui,
c'est le tonus à laquelle, la fermeté, l'amplitude du mouvement et le rythme du mouvement. Ça, c'est trois grandes lois là, qui peuvent prédisposer l'apprentissage de votre manière d'être stimulé. Mais par la pornographie, ça peut parfois tout skipper ça. Là. Les gens vont aller vers vite, fini.
Oui, c'est exact. Ça, c'est une forme de masturbation qui est satisfaisante rapidement. Souvent, ça va être pour éliminer une certaine forme de stress. Mais il y a aussi la masturbation plus lente que je vous invite à pratiquer avec votre partenaire. Surtout, mesdames, là, qui mettez toute la pression sur votre conjoint parce qu'il ne vous donne pas d'orgasme. Là. Mais commencez donc par vous masturber à côté de lui. Montrez-lui ce que vous aimez, comment vous aimez ça. Puis une fois que vous arrivez à atteindre votre propre orgasme, là, vous pouvez
aussi laisser
vous attendre à l'avoir.
Laisser tranquille les orgasmes. Hein?
Oui, c'est vrai, ça.
Il y a beaucoup de gens qui
se
mettent tellement de pression là, puis qui ont l'impression que la sexualité n'est pas satisfaisante s'il n'y a pas deux orgasmes en même temps, en se regardant dans les yeux, avec le même nombre de soupirs et le même nombre de Puis il faudrait que ça finisse en même temps aussi. Il faut,
Vraiment.
Ça, c'est de la pression tellement grande qu'il y a des gens qui vont développer une phobie de la sexualité à cause de ça.
Puis c'est ça, c'est l'anxiété de performance.
De se retrouver là, ouais, c'est ça.
Max, toi, ta conjointe est contente, dans le fond? Dans le fond, c'est juste du beau, là, tout ça.
La madame est contente.
Hein? La madame est contente.
Écoute, je parlerai pas pour elle, mais...
tu vois que du beau. En fait, toi, tu vois vraiment un...
Personnellement, moi, ça faisait longtemps que ça me titillait l'esprit, puis ça faisait longtemps que j'avais envisagé l'idée de me défaire un peu de cet aspect-là de mes séances masturbatoires. Puis là, exactement. Puis là, tu sais, je te parle de ça un peu à livre ouvert ce soir, puis c'est bien tant mieux. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui probablement ont déjà eu cette idée-là ou pensent à lésiner là-dessus puis mettre ça un peu plus de côté. Mais je vois des bienfaits, sincèrement. Puis je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon esprit est moins flou. Je ne sais pas s'il y a un lien avec ça. Ou...
C'est une question d'hormones, ça?
Non,
ça sécrète de la dopamine.
L'hypothèse que je ferais, c'est relié avec l'hyperstimulation des circuits dopaminergiques. C'est quand on est habitué d'être dans l'hypervigilance, l'hyperstimulation, ça crée comme un flou là, dans lequel il faut être hyper vigilant à tout, mais on est moins dans le senti. Puis là, quand on apprend à arrêter la coke, entre guillemets, de l'hyperstimulation, ben là, tout d'un coup, oh, on redécouvre des sensations autres. Puis c'est vrai que ça donne une impression de clarté mentale. Mais là-dessus, il y a des gens, par contre, qui vont aller dans des extrêmes. Puis je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du mouvement NoFap.
Non.
C'est un mouvement, c'est non-masturbation.
C'est
très sur des courants religieux, par contre, derrière ça. Puis c'est assez extrême. Là. C'est comme un peu les sexes anonymes. Là.
Ouais.
Ils valorisent beaucoup l'arrêt de toute forme de luxure sexuelle. Moi, je trouve ça vraiment trop extrême.
Mais quand c'est problématique et profond, peut-être que ça peut être envisageable, mais autrement, est-ce que ce serait pas mieux de privilégier un équilibre?
Ben, en réalité, c'est tellement archaïque et profond, le rapport à la pornographie, que bien souvent, il va falloir aller vers une réduction des méfaits plutôt que par un arrêt drastique.
Donc, réduction des méfaits, donc
peut-être changer
réduction
vers
de
une catégorie,
tout court.
Ben, peut-être changer vers une catégorie de porn moins hard. Peut-être le
plus
fait
romantique.
De déplacer l'utilisation des de la consommation de pornographie par des accessoires. Peut-être le déplacer vers une demande de pratique sexuelle autre. Avec la partenaire ou le partenaire.
Parlant d'accessoires, les gens qui sont jaloux des jouets sexuels, là, comment est-ce qu'on peut leur expliquer qu'il n'y en a pas de problème? Ça t'apporte une sensation? Ben, c'est certain, c'est certain qu'il peut y en avoir un problème si la personne qui utilise les jouets ne veut plus avoir de relations sexuelles avec un humain.
C'est ça, ça peut créer de la distance parfois.
OK, ben là, oui, là, je comprends, mais OK, fait que c'est la crainte, en fait, c'est cette crainte-là que ces gens-là ont.
Oui. Puis il y a aussi, c'est parce que la sexualité, ça n'a pas seulement un rôle relié au plaisir, ça a un rôle relié aussi à l'identité. Puis il y a des individus que lorsque le partenaire utilise beaucoup un accessoire, ils ont l'impression d'être dépossédés de leur rôle dans le nous.
Ils sont diminués.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme s'ils perdent une partie de leur rôle dans le couple. Puis là, ils disent, ben OK, mais moi, là, tout d'un coup, je sers à quoi, là? Parce que quand on s'entremêle avec quelqu'un, c'est pas seulement deux jeux qui deviennent côte à côte, là. Ça serait comme se masturber l'un dans l'autre, si c'était ça.
Ouais.
Est-ce que c'est ce genre de personnes-là qui ressentent ce genre d'émotions-là auraient besoin plutôt de travailler sur leur ego, à contrario de mettre le poids puis le fardeau de ce qu'ils ressentent sur les épaules de leur conjoint?
Ben, c'est toujours un enjeu particulier, ça. Puis moi, je me dépêche de l'évaluer quand je rencontre des couples en thérapie, là. Est-ce que c'est des difficultés individuelles qui rejaillissent sur le couple ou si c'est un problème transactionnel de couple qui fait souffrir les individus.
Il y a une nuance entre les deux.
Ça prend une évaluation rigoureuse, là, puis vraiment personnalisée pour être capable de le démêler.
Moi, je pense que, en tout cas, ce que j'aurais à conseiller, là, je sais pas ce que tu en penses, mais ce serait d'avoir des relations sexuelles, conventionnelles, là, corps à corps, mais de temps à autre, pour mettre un peu de piquant et de nouvelles sensations, d'ajouter des jouets pour elle, pour lui. Il y a tellement de choses possibles. T'sais, c'est des sensations qu'on peut pas reproduire avec un corps humain, là. Mais ne pas le remplacer, de pas remplacer. Anyway, il y a rien qui peut remplacer la chaleur humaine et le contact humain, la connexion humaine que tu peux avoir avec quelqu'un d'autre.
Mais il faut pas y aller en forçant la mécanique. Hein. Parfois, il faut créer pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois de la proximité avant de faire ça.
Oui.
Puis là,
c'est sûr.
On n'est pas en train d'encourager les auditeurs à go, 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 allez-y vers l'utilisation de.
Ah, non. Juste, moi, je pense, tu sais, comme en début de relation, moi, en ce moment, je suis comme. C'est de temps en temps, mais à peine, parce qu'on dirait qu'on découvre encore notre partenaire, puis on n'en a pas besoin. Mais au fil du temps, ça peut être le fun de mettre un peu de piquant. Là, comme...
C'est ça, la question que je propose aux gens en thérapie, c'est de dire, est-ce que cette utilisation d'accessoires, ça enrichit votre couple ou ça appauvrit votre couple?
Exact.
Là, je parle pas financièrement, je parle sur le plan affectif et identitaire.
Exactement. Hi là là, le temps file, mesdames et messieurs, comme toujours. Ça, c'est de la faute de Dr. Simard. À chaque fois qu'il est là, le temps...
On en manque.
On va tout de suite aller à la pause.
Mais juste
va...
avant, je me permets de t'arrêter pour la première fois. Je t'arrête là, pendant que tu nous lances à la pause. Moi, je me suis ouvert. Okay? J'ai raconté ce qui se passait dans ma vie. Puis tout à l'heure, tu nous as raconté quelque chose à bâton rompu avant de rentrer en onde. Alors, ben, je te propose de t'ouvrir toi aussi.
Les aventures TDAH de Mel.
Oh! Non!
Alors, Mel, j'aimerais, avant la pause, que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement?
Dans un électroménager.
Non, on va pas là.
Ah, ben, il est trop tard.
Oh, mais non, mais c'est juste que, tu sais, pas de répit pour Mélanie. Je fais des choses étranges, là, tu sais. C'est mon TDA, là, finalement. Et j'ai mis mon sel dans le congélateur.
Non!
On va à la pause, mesdames et messieurs.
La sexploratrice.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel, Radio X.
Ah, oh, Max m'a surpris avec sa petite question d'entrée de jeu, mais on va poursuivre là-dessus.
Attends un peu, ça prend le thème.
Les aventures TDAH de Mel.
Les aventures TDAH de Mel. Donc, tu vois, hier, j'ai parti une brassée deux fois. J'avais une brassée pas partie dans sécheuse, une autre dans laveuse qui datait de la veille. J'ai reparti tout ça. Ah non, ça coûte cher. C'est un luxe avec TDA.
Ouais, mais ton linge est propre.
Linge est propre, puis il se magane vite. Mais c'est ça, où je vais payer au service au volant et je repars sans mon lunch. Ça, c'est le genre de truc que je fais. Il y a quelqu'un ici dans le live qui mentionne qu'il a oublié son cellulaire sur le toit de sa voiture. Ça m'est aussi arrivé. Ça t'est déjà arrivé, ça?
Non.
Ou ton café?
Non.
Non?
Non plus. Mais j'ai déjà oublié mes clés dans mon char puis barré mon char par la suite.
Oh.
Là, ça, c'est malaisant. Là. Ouais. Tu fais quoi? T'appelles un remorqueur? Oui, mais non. T'appelles un chauffeur de taxi qui arrive avec un cintre. Il graffine ta fenêtre de char.
Ah, oh, ouais. Toi, Doc, ça t'arrive-tu des histoires TDA comme ça?
Moi, je n'ai pas de TDA, donc je n'ai pas ça. Non, non.
Ah!
Fais pas d'erreur, Doc. Il est parfait. Mais ton sel dans le congèle, celle-là, c'est la meilleure.
Mon sel dans le congèle, je peux pas l'expliquer. Je ne sais pas comment. Non, mais attends, ce matin.
Je comprends pas.
Ça, c'est quelque chose de vraiment étrange. Mais des fois, je me dis, il y a peut-être des fantômes.
Ouais, c'est ça.
OK. Non, mais sérieusement, ce matin, mon amoureux me demande, il dit, t'aurais-tu remis un cop à café usagé dans la jarre à café? Je dis, voyons, pourquoi j'aurais fait ça? Je ne peux pas avoir fait ça. Mais écoute, il y avait un cop à café utilisé dans la jarre.
Dans la carafe?
Dans le bol où il y a les copes neufs là, à mettre dans la machine.
Ah.
Elle était usagée. En tout cas. Mais je pense pas que c'est moi, mais peut-être. Peut-être. Mesdames et messieurs, comment vous vivez ça? Comment votre TDA, toi, Max?
J'ai pas de TDA.
Ben là,
c'est ça, c'est les aventures
c'est une
TDAH 2000.
Neurologique. Fait que là, c'est pas tout le monde qui a une condition comme ça.
Mais il y a quelqu'un qui a oublié ses clés sur son windshield ou les wipers, puis il a fait Québec-Montréal. Ça, c'est du génie, ça.
Il a fait Québec-Montréal avec ses clés sur le windshield. Ça, c'est très drôle. Ah, merci beaucoup pour vos partages. C'est très apprécié. On aime ça, vous lire comme ça. 88-670-9098 sur le live. Sinon, sur le live TikTok, je suis capable de vous lire maintenant. Live TikTok de la Sexploratrice. Abonnez-vous également à la page TikTok de choix Radio X.
Mais ça fait ton charme, tout ça, Mel. On t'aime comme ça.
Ouais. Des fois, c'est... Ouais. En tout cas... Des fois, ça me met un peu dans la merde, comme échapper ses clés dans le conteneur à déchets.
Oups!
En même temps que les vidanges. Ça, je suis sûre que ça arrive à plein de gens.
Ben oui. Ça se ressemble à un porteur de cellulaire puis il y a une poubelle.
Non, mais tu sais, des fois, t'as tes clés après ta main et tes...
C'est vrai.
Oh, Mel! La manette de TV dans le congélateur. Quelqu'un nous signale ça. T'es pas tout seul.
Ah, wow!
C'est pas un cellulaire, mais la manette de TV, celle-là est bonne aussi.
Hey, mais non, mais je suis bien contente. Ben oui, je vois ça, là. Hey,
je suis donc bien contente.
Rick, je suis avec toi, Rick.
Yes, sir, mon Rick.
On est là. Team TDA. Qui est Team TDA ici? Bon, ben je pense qu'on peut y aller avec le, ben,
le sujet principal. De la soirée.
Ah, on a fait le tour, là. On a fait le tour, là. C'est un gag qui s'éternise.
C'est la moitié de l'émission.
Tu nous as surpris avec ton affaire là, de pornographie. Là.
Ben oui.
Ben ouais, je suis un gars de même.
Surprise.
T'es le seul collaborateur avec qui on peut dégénérer comme ça.
Ah,
en fait, ça peut dégénérer. Puis j'ai déjà rangé le lait dans le garde-manger. Oui, effectivement. Oh, c'est céréales. Ouais, c'est ça. C'est céréales en frigidaire, le lait dans le garde-manger. Comme moi, l'autre fois, la margarine dans le garde-manger aussi. J'avais envoyé ça à Max, justement. Il m'en arrive des affaires, il nous en arrive tous, les TDA.
Si un jour, tu me poses une question technique, genre des auditeurs, je vais y répondre.
Oui, hey, on y va, on arrive là, Doc.
Cool, non. Il est pressé, le Doc. On est là, on jase de TDA, non, tranquille, on fait nos affaires, puis le Doc, il veut parler de choses importantes.
Ramène-moi.
Ça va, d'équipe.
C'est une soirée TDA, là, messieurs.
Bon,
oui, alors on y va avec le sujet principal de la soirée et on répond aux questions des auditeurs.
Okay.
Et je tiens déjà à vous mentionner qu'on en a tellement qu'on va y répondre également la saison prochaine parce que j'ai confiance que l'émission revient.
Oui.
Même si je ne sais pas.
Avec on lance ça dans l'univers.
J'ai confiance. Formule spéciale. Oui, fort probablement, peut-être. Oui. Y a-t-il quelque chose que tu sais que je sais pas, Doc?
Non.
Dis-le à ta face.
Bon, on va aux questions.
En vain. T'as pas vu, c'est donc bien intriguant, ça. OK. Donc, on y va, mesdames et messieurs, avec une première question des auditeurs. Pourquoi certaines personnes demandent-elles des choses qu'elles ne veulent pas vraiment? Ah. Ça, c'est vrai qu'on voit ça.
Oui. Moi, je pense que la différence principale, ça serait entre le désir et le besoin. Parce que pas tout le monde qui a une conscience de la différence entre les deux. Là. Puis là, ils vont demander quelque chose parce qu'ils sont conscients du désir là, qu'ils ont. Mais c'est pas forcément en accord avec leur véritable besoin. J'aurais le goût d'explorer ça avec les personnes.
OK.
Là, ils vont demander plein de choses. C'est insatisfaisant ou c'est satisfaisant vraiment temporairement. Puis ils restent avec un arrière-goût de manque de quelque chose. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas ciblé le véritable besoin.
Mais là, est-ce qu'on parle de gens qui sont éternellement insatisfaits?
Alors, les gens... la question, hein?
Pourquoi certaines personnes demandent-elles des choses qu'elles ne veulent pas vraiment?
Ah ouais.
Ou peut-être, ouais. Tu sais, dans un couple, est-ce que, exemple, tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui fait juste chialer pour chialer ou demander des choses pour.
Ben, c'est parce que c'est difficile d'assumer ses vrais besoins. Ça peut provoquer de la honte, ça peut provoquer de la crainte de perdre le lien avec les autres. Fait que, d'où la transformation du besoin en une forme de désir peut-être socialement acceptable.
OK.
Ça, on peut le voir dans la sexualité ou dans plein d'autres sujets. Il y a des gens qui n'oseront jamais demander à leur partenaire la pratique sexuelle qu'ils aimeraient pour de vrai. Parce que ça crée de la honte. Parce qu'ils ont peur de choquer l'autre personne. Ils ont peur de l'effaroucher. Fait qu'ils vont demander plein d'affaires. Ils vont dire plein de choses, mais pas la vraie patente.
Puis, est-ce que l'humain qui a toujours tendance à désirer ce qu'il a pas plutôt que d'apprécier ce qu'il a. Ça, c'est l'adaptation hédonique, hein? J'aime ça, ce mot-là.
C'est fort possible.
Puis, c'est ça, pour vrai?
Il y a aussi la comparaison qui est la source de l'insatisfaction. Parce que dès qu'on regarde les autres à côté, on a tendance à dire, ouais, mais moi, je trouve ça injuste, là.
On en vit.
Ouais. Fait que ça fait apparaître ça, la comparaison.
Alors quand on se libère de ça, on est bien.
Ah oui.
La comparaison, là.
Oui. C'est tout qu'un cheminement difficile. Ça.
Oui.
Parce que ça implique porter un regard sur les mécanismes de souffrance et de mécontentement à l'intérieur de soi. Alors que quand on est stressé, on est en hypervigilance vers l'extérieur. Puis, regarde, je le vois bien là, que c'est de la faute de l'autre si je me sens comme ça. Mais ça, c'est une erreur de raisonnement. Il faudrait résoudre cette hypervigilance-là en distribuant l'attention des deux côtés. Là. Se donner un peu d'attention et laisser son attention centrée aussi vers l'extérieur. Donc, 50-50.
On a fait le tour de la question, Doc.
Ben oui, ben oui.
Max, aurais-tu une autre question des auditeurs?
Est-ce que deux ex-conjoints peuvent se remettre ensemble après plusieurs années de séparation?
La réponse facile, c'est ça dépend. Mais après le coup, j'aurais goût de vous dire, est-ce que les deux ex-conjoints y ont changé? Y a-tu quelque chose qui a évolué entre-temps?
L'évolution.
Ouais.
Ah, j'ai une question là-dessus. Est-ce que les gens peuvent vraiment changer ou on ne fait qu'évoluer?
C'est pas la même chose un peu, ça?
Ça va dépendre.
Pas
c'est pas tout le monde qui a la même définition de ces concepts-là. Mais en effet, peu importe que ce soit quoi le terme, si vous rencontrez votre ex-partenaire dans le même genre de mindset que vous étiez à l'époque et que l'ancien partenaire est dans le même mindset lui aussi qu'à l'époque, on pourrait pas vraiment dire que ça va changer quelque chose à votre rencontre. T'sais. C'est comme essayer un tour de manège dans lequel vous avez déjà vomi. Il est fort probable que vous allez revomir à nouveau. Mais si, par contre, vous arrivez devant une personne qui a fait des prises de conscience, que vous aussi, vous avez cheminé des choses, bien, on pourrait dire que c'est pas tant l'ex-personne qui va poser problème dans la reprise que plutôt que la rencontre de l'ex-pattern.
Oui, ben, c'est ça. Est-ce que ça serait possible que malgré le cheminement d'une part comme de l'autre, malgré le cheminement qui a été fait, lorsque la réunification du couple va se faire, ça les ramène à l'état dans lequel ils étaient au moment de la séparation?
Oui, ça a souvent tendance, une relation, plus qu'elle a de l'histoire, plus qu'elle va avoir tendance à revenir dans le lit de la rivière de l'histoire. C'est comme si ça trace un fil d'attachement.
D'où comme le sillon d'un vinyle.
Exact. D'où l'importance de vraiment faire un travail sur soi. Est-ce que j'amène quelqu'un de nouveau? Moi-même, suis-je évolué ou ai-je fait des prises de conscience?
Mais moi, oui, je leur conseillerais de consulter là, ouais, en début de relation. Si vous tenez à reprendre avec un ex-partenaire, je pense que ça peut être bon justement de voir. Parce que s'il y a eu une réelle séparation entre les deux durant quelques
c'est
années...
peut-être pour une bonne raison.
Oui, mais je pense que ça se peut aussi.
Bien sûr.
Tu sais, le veut pas au fil du temps, on évolue là, selon nos tranches d'âge, où est-ce qu'on est rendu dans la vie et tout ça. J'ai l'impression. Ouais.
Ben moi, je le vois en consultation, là, quand les couples viennent me voir. Il y en a qui ont repris après plusieurs années. Puis là, maintenant, ils sont prêts. Ils sont sur la même longueur
c'est
d'onde.
C'est ça. Parce qu'on va se le dire, OK? Admettons, par exemple, OK, je généralise pas, mais on voit ça, un homme dans la vingtaine qui est un peu festif, qui a envie de faire la fête et tout ça, alors que mademoiselle, elle, a les hormones dans le piton, a envie d'enfanter, bon, maison, ouais, boulot, enfant, blablabla. Et là, ça éclate. Dans la trentaine, ça éclate. On en voit beaucoup, là, des familles comme ça. Et là, rendu comme dans la quarantaine, on dirait que madame, en tout cas, j'en ai vu plusieurs,
active.
Et plus, ouais, et a envie d'être active, se connaît davantage, a envie d'explorer sa sexualité. Monsieur, lui, a envie de se caser, comme s'il avait fait toutes ses expériences, il a envie de tranquillité. J'en vois beaucoup de ça. Trouvez-vous? Est-ce que je suis la seule à avoir constaté ça? On dirait que dans la quarantaine, on voit plus d'hommes qui seraient prêts à s'investir, alors qu'on voit beaucoup de femmes davantage indépendantes
moi,
qui ont envie d'explorer.
Je crois que c'est un billon échantillonnal.
Ah, peut-être.
Probablement parce que ça fait partie des gens que tu côtoies.
Ça peut-être. Ma vie.
Et ton algorithme de recommandation est aussi sévère que celui de Maxime.
Le mien est très plaisant, je vois pas de quoi tu parles.
Mais oui, ça arrive. Ça arrive que ce sont des grandes tendances qui s'observent dans la population générale. Fait que c'est pas systématique.
Ouais.
C'est pas tout le monde qui est là-dedans. Puis là, s'il y a des auditeurs qui disent ouais, mais moi, c'est l'inverse. On parle pas de vous non plus. Là. On parle
non,
général.
Non, exact. C'est ça. Puis c'est même pas. Je veux pas dire que c'est nécessairement une généralité, mais moi, j'ai constaté ça.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup de femmes dans la quarantaine qui ont envie d'être indépendantes, puis que leur famille est faite.
C'est dur de s'arrimer. De s'arrimer aux mêmes besoins, d'évoluer en même temps, sur les mêmes objectifs.
Il y a une question d'hormones aussi, je pense. Puis
oui, c'est ça.
Cyclique et tout.
Mais pour le couple qui s'est séparé, qui décide de revenir ensemble, quelle place occupe le passé dans les débuts du renouement? Est-ce qu'il faut en parler ou non?
Ben, y a des gens qui vont faire complètement table rase, ça les intéresse même pas. Il y en a qui veulent tout savoir. Il y en a que ça les écœure.
Hey, ça doit être difficile de revenir avec ton ex. Disons, tu as été séparé durant 5 ans. Et là, tu sais qu'il y a eu des hommes ou des femmes, d'autres personnes. Ça doit être quand même quelque chose de...
Non, il y a
des... Ce qui s'est passé entre les deux, oui, mais ce qui s'est passé pendant la première partie de leur relation aussi, si on considère que la réunification puis le retour en couple, c'est la deuxième partie... Ce qui les a amenés à la séparation, puis
en
les années qui ont suivi ou les mois.
Un peu comme l'infidélité, si tu reviens avec le conjoint.
Au contraire, est-ce qu'il faut le faire?
Je pense pas.
Mais la dissolution, là, comment ça s'est fait la rupture, ça peut nous donner beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'on réengage ensuite. Parce qu'y a-tu encore de la rancœur? Y a-tu des vengeances cachées? Est-ce qu'il y a des coups de cochon là, qui ont été posés en cachette qui vont repopper à travers les années? Donc, tout ça, c'est un sujet complexe. Puis c'est vrai que, tu sais, aborder ça en thérapie, des fois, ça aide à bien redémarrer encore. Mais oui, c'est possible. Ayez de l'espoir. Mais c'est pas forcément bon. Parce que si vous vous êtes séparés, il est fort probable que c'était pour une bonne raison à un moment donné aussi.
Ouais.
La lune de miel puis le désir de renouveau, c'est formidable ça aussi.
Mais ça dure en moyenne 18 mois à 36 mois.
C'est ça, c'est temporaire.
Puis je suis sûr que vous avez déjà entendu aussi la bonne vieille expression qui dit que de revenir avec son ex, c'est retourner en arrière, c'est retourner dans le passé, c'est comme si on cheminait pas dans le bon sens.
Ben, c'est pour
Es-tu d'accord avec ça?
Ben, c'est pour ça qu'il faut voir c'est quoi qui reprend. Est-ce que c'est le pattern ou si c'est la curiosité de refaire connaissance?
Ouais. Puis là, c'est ça qui est dangereux, c'est que tu refais connaissance, mais là, tu ressens à nouveau l'effet du papillon qui s'est éteint. Parce qu'on dit que c'est ça, hein, l'espèce de le cocktail chimique là, euphorisant en début de relation finit par s'éteindre, pourrait revenir dans le cas où il y a justement soit une relation à distance, donc les deux sont séparés durant une certaine période, ou une séparation complète.
Bien sûr.
Là, ça pourrait revenir, mais ça, c'est une question de d'hormones et de phéromones qui s'activent.
Ça, et vivre des événements difficiles ensemble. Ou écouter des films d'horreur ensemble.
Oui, il y a une étude qui est sortie là-dessus.
Eh oui.
C'est, ça rapproche.
Oui.
Ça fait en sorte que deux humains peuvent développer un lien affectif que d'écouter des films d'horreur ensemble.
C'est ça. Fait qu'il y aurait deux manières, dans le fond, de se rapprocher en écoutant Netflix. Il y aurait d'abord d'écouter les films d'horreur et ensuite Bridgerton.
Ouais.
Parce que ça, c'est à la fois romantique et épeurant.
Il y a quelqu'un sur le live qui dit « Ma première vraie blonde au secondaire, on s'est perdu de vue pendant 30 ans. Elle a fait sa famille, moi la mienne, puis après 30 ans, ils se sont revus, puis ça fait 5 ans qu'ils sont mariés et très heureux. » Mais là, oui. Je pense que justement, on part de secondaire, t'es ado, adulte.
Ils ont échangé beaucoup.
Puis t'es pratiquement pas la même personne.
Exact, non? C'est ça. Fait que c'est pas le même pattern qui redémarre. C'est peut-être un nouveau pattern qui s'inspire de l'ancien, mais qui peut avoir beaucoup changé à travers les années.
Très intéressant. On a le temps pour une autre?
Je pense que oui.
Merci, Doc. Comment se comporter avec un idiot?
Tu parles d'une question, hein?
On n'est jamais aussi con que l'homme à qui on parle.
Oh, Max le philosophe, mesdames et messieurs.
Non, mais c'est vrai, hein? Si on veut parler à un con, il faut s'abaisser à son niveau, malheureusement, pour qu'il nous comprenne.
C'est un peu comme ça que j'interpréterais la question aussi, parce que dans la question, il y a un jugement. Donc, en jugeant la personne, n'êtes-vous pas en train de vous-même vous abaisser à ce niveau-là de traitement de l'information?
C'est exactement ça.
Parce que pourquoi qu'on jugerait quelqu'un, qu'on traiterait quelqu'un d'idiot si on n'était pas dans une souffrance à l'intérieur de soi? C'est comme si parce que j'ai mal, parce que j'y en veux, parce que je trouve ça inacceptable, je vais faire mal à l'autre personne en le rabaissant.
Non, ben en fait...
Non, c'est dans la question.
Comment se comporter avec un idiot, mais ça ne veut pas dire que tu le rabaisses?
Non, mais dans la manière que la question est posée,
ça nous
parle déjà de, on pourrait dire, de quelque chose derrière la question.
Je comprends.
Le jugement est déjà là.
Ouais, exact. Effectivement.
Si tu trouves que c'est un idiot, de facto, tu le rabaisses.
Et moi, j'aurais goût de vous dire comment se comporter avec quelqu'un d'idiot. Ce serait d'abord de commencer à regarder à l'intérieur de soi comment ça se fait que je perçois un idiot.
Ouais.
Connais-tu l'histoire? C'est une espèce d'analogie bouddhiste là, dans laquelle il y a un moine qui était le plus grand moine méditatif de Chine. Puis là, il était réputé, là, c'était le meilleur. Puis un jour, il entend parler qu'il y a un autre moine encore meilleur, un grand maître en Inde. Puis là, il demande audience, il va le voir. Il réussit à le voir. Puis là, il s'assoit devant le maître d'Inde. Puis il sait, lui, qui est le meilleur là, t'sais, maître. Puis là, il dit, « Que vois-tu devant moi? » Que vends-tu devant toi, dans le fond? Puis là, ils réfléchissent un peu à ça. Puis l'invité, qui était un peu arrogant, dit, « Mais moi, quand je te regarde, je vois une merde. » Puis là, le grand maître d'Inde se lève debout. Puis il dit, « D'accord, j'ai une bonne journée. » Puis il dit, « Hey, toi, tu veux pas me dire qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes? » Il dit, « Mais moi, je vois un Bouddha. » Il dit, « Comment ça? » « Mais parce qu'on ne peut percevoir chez les autres que ce que l'on porte en soi-même. »
Oh!
Fait que c'est un peu une analogie pour dire que même si c'est une très bonne question, comment se comporter avec quelqu'un d'idiot, on pourrait dire que ce serait d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège de faire mal à quelqu'un qui vous a fait mal, parce que l'esprit vengeur, ça mène nulle part, ça crée juste plus de souffrance dans le monde. Puis là, vous venez de donner une raison à l'autre personne de vous faire mal parce qu'elle vous avait eu mal. Fait que ça finit plus, là, œil pour œil, dent pour dent. On peut plus aller voir des spectacles.
C'est ça. À la seconde où tu considères que l'autre est idiot, t'es inévitablement en mode défense et possiblement en mode attaque par la suite. Alors que tu pourrais juste tenter de le comprendre.
Fait que vous voyez qu'à travers des excellentes questions comme ça qui sont posées par l'auditoire, ça nous permet de réfléchir sur une espèce de positionnement personnel. Qu'est-ce que je fais avec mon propre esprit quand j'entre en relation avec les autres? Mais c'est ça, on ne peut pas partager sans se posséder soi-même.
Ouais.
Faut d'abord se saisir de l'intérieur avant d'ouvrir la porte. Mais moi, j'encouragerais pas ça, le fait de traiter les autres d'idiots.
Non. Effectivement. Au pire, tu l'évites. Il y a quelqu'un qui mentionne ça sur le live. Pourquoi t'entretenir avec un idiot? Au pire, tu l'évites. Et si on va au contraire de l'idiot, il y a quelqu'un d'autre qui a mentionné tout à l'heure sur le live de Radio X que lui, il était attiré par les personnes qui les stimulaient intellectuellement. Et ça, c'est d'être sapiosexuel.
Eh oui.
Ça, c'est des gens qui sont vraiment attirés et allumés sexuellement par des personnes qui les stimulent intellectuellement.
Si l'intelligence les stimule sexuellement, on parle de sapiosexuel. Mais si l'intelligence les stimule sur le plan de l'intérêt et de l'amitié, on pourrait plutôt dire sapiophile.
Ah, OK.
Fait que c'est pas forcément sexuel et génital. Ça peut être un intérêt, mais ils vont pas glisser vers l'érotisme sexuel. Mais c'est quand même un intérêt, sapiophile.
Très intéressant. Max, aurais-tu une autre question des auditeurs?
Avec plaisir. Quelle est la raison de l'existence? Non, c'est pas vrai.
Facile, j'aurais dit. J'aurais répondu vite. 47.
Oui, le fameux chiffre. Après combien de temps on passe du statut de fréquentation à celui de couple?
Excellente question.
Hey, moi, pour mon amour, on se l'est jamais demandé.
Hein?
Parce que tout s'est fait seul.
Et là, êtes-vous en couple ou en fréquentation?
Bien là, on est en couple, je pense.
Ah, t'es pas sûr?
Mais,
on l'appelle-tu,
moi?
On va lui demander.
Très sérieusement, on est en couple, mais c'est comme si il n'y a pas eu de moment où on se l'est demandé.
Ouais.
Ben, tout s'est fait à égalité. Il n'y a pas quelqu'un... Ça se peut-tu que dans les couples, il y a tout le temps quelqu'un qui veut un peu plus que l'autre?
Non.
Non?
Non. Il y a des gens, des fois, qui sont bien synchronisés ensemble.
OK.
Je pense que la question, elle nous amène à une belle distinction.
Hey!
Ah ben!
Hey, c'est vrai!
Oh, de où, lui?
J'ai fait le saut.
Hey, je me rappelais pas que tu venais! Salut!
C'est mon
amoureux! Qui est dans le studio! Mais non, mais j'ai expliqué, on se l'est pas demandé.
Non.
On se n'est jamais parlé.
Mais
là,
on se demande.
Mais là, on est en couple? On est en couple.
Bye!
Hey, bye!
Je t'aime! Oh, les je t'aime de l'amour!
Moi aussi, il m'a mis sur le nerf, là, puis oui, je pensais qu'on se faisait attaquer.
Mais non, mais le plus, c'est qu'il me l'a dit, je vais sûrement passer après la game pour faire, je vais voir un truc pour en fin de semaine au Jibourdo.
Ouais.
J'ai fait, OK, mais je me rappelais pas qu'il était là, je suis tombé gêné.
Ben, il va y penser, en
donc,
tout cas, c'est la bonne
là,
nouvelle.
On vient d'apprendre que Mélanie est en couple.
Je suis en couple, officiellement.
Elle n'est plus seulement en fréquentation.
Non!
Tu sais, il y a quelques décennies, là, c'était assez clair, hein, on passait de célibataire à marié. Puis là, ça passait d'un individu qui était dans un nous.
Oui.
Il n'y avait plus de transition, là. T'sais. Aujourd'hui, les gens sont rendus un peu frileux avec l'invention de toutes sortes d'autres catégories. Là, avec la promotion, on va dire la popularité du divorce, on a vu monter les conjoints de fait. Donc, c'est pas tout à fait marié, mais c'est quand même un engagement légal.
Mais conjoint de fait, tant qu'à moi, c'est aussi impliquant qu'être marié. Mais en fait, même, t'as pas besoin d'être marié pour te dire que t'es en couple ou que tu t'aimes.
Oui, mais là, dans la question, il y avait une question de temps. Après combien de temps on fait la différence entre les deux? Fait que moi, j'aurais le goût de vous dire, ça va dépendre à quelle vitesse vous vous focussez sur le « nous ». Parce qu'il y a des gens qui restent dans le « je », ils fréquentent un autre « je »,
oui,
sont très indépendants les deux. C'est pas la même chose que sauter rapidement dans un « nous ».
Mm-hmm.
Puis là, ben, peut-être qu'il y a des individus qui passent après une semaine au mariage, donc ils forment un « nous » très rapide. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire, ben, peu importe si t'es marié, c'est le temps que ça prend à connaître la personne qui va dire s'il y a un « nous » réel.
Puis ça, il y a des gens là, qui ont besoin que ce soit affiché rapidement sur les réseaux, le mariage rapidement, puis... Il y a des gens qui sont juste insécures. C'est pas tant pour officialiser la relation que...
Ouais.
Ben oui, c'est pour officialiser la relation, mais c'est même pas une question de sentiment officiel entre les deux. C'est plus pour se sécuriser, on dirait.
Oui, il y a des gens qui font des spectacles de leur relation.
Oui, ouais, vraiment, on voit ça.
Oui, il y a même des gens qui interrompent les émissions de radio...
Oh, c'est vraiment comme ça! Hey, non, mais je suis encore sur le nerf.
Quel moment! Mais moi aussi, il m'a stressé. J'étais sûr qu'on se faisait attaquer. Là. J'étais bon.
Je me souvenais pas qu'il pensait à la station, mon Dieu, Seigneur. Hey, c'était drôle.
Puis c'était 42 dans Adams.
42?
C'était 42, pas 46. Ça me titillait depuis tantôt. Je suis allé voir. C'est parce que je m'en souvenais pas, moi non plus.
J'ai rajouté 5 pouces.
Ah ouais, ben c'est ça. Le guide du voyageur galactique. En tout cas,
oui,
un livre.
Ben oui. Ouais, oui. Bon. Prochaine question.
Ben, bonne nouvelle, t'es en couple, Mel.
Mais oui, non, mais je suis en couple. Et de toute façon, on s'était affiché déjà là, sur les réseaux sociaux. Et t'es en couple, je niaisais, évidemment. Mais c'est ça, mais puis j'y ai dit récemment, j'ai dit, c'est drôle, on se l'est jamais demandé. C'est comme si tout s'est fait. J'ai jamais vécu ça, une relation comme ça, où tout se fait. Tout est synchronisé. on est égal ou... Je sais pas, toi, avec ta copine, est-ce que vous êtes venu à un moment où vous en avez parlé?
Pas vraiment. Ça se fait organique. Quand t'es bien avec,
c'est ça,
avec
hein?
la personne avec qui
t'es... Quand t'es bien puis que t'as pas besoin de...
Ben, ça vient un moment où on se regarde dans les yeux puis on se dit...
Je t'aime.
Oui, je t'aime. Puis on est pas mal en couple, nous autres. Là, puis ouais. Ça se fait tout seul. Il y a pas la fameuse question... Veux-tu être en couple avec moi ou on est-tu un couple?
Case la coche, c'est la petite
ouais, coche. Oui,
non, mais il y en a
coche,
pour qui c'est super important, puis qu'il faut que ce soit affiché sur les réseaux, puis il y en a pour qui c'est ça, là, vraiment.
Ben, ils ont peut-être des questions à se poser sur les motivations en arrière de ça. Est-ce qu'ils veulent à tout prix être en couple plus que être bien avec quelqu'un?
Ça, c'est des gens qui ont souvent de la difficulté à être seuls, je pense.
Peut-être.
Qui accumulent.
Toutes les possibilités sont dans
la relation. C'est ce que j'ai déjà dit aussi, c'est que cette personne-là qui est arrivée dans ma vie sera arrivée avant. Puis c'est tellement une bonne personne que j'aurais probablement pas... Tu sais, parfois, on a besoin d'accumuler des relations non satisfaisantes et challengeantes pour se guérir jusqu'à... Ah ben oui, on en avait déjà parlé d'ailleurs, Doc. Ouais. Jusqu'à ce qu'on soit bien...
Possible, c'est ça.
Il y a des gens qui accumulent des relations toxiques tant qu'ils préfèrent rester dans une zone connue toxique que de l'inconnu de bonheur.
Oui. Oui, dans mon couple, moi, on s'était amusé un peu avec ça au début en disant que si on se rend 12 dates, là on va s'aimer. Là, on riait bien gros avec ça. Ben, ça nous semblait
vous
tellement...
accumuliez les dates.
Ouais, ça nous semblait tellement absurde de dire ça.
Mais ça peut être drôle, mais c'est une belle façon aussi de...
Ouais, ouais. Mais on jouait avec le concept de l'engagement. Puis de, fait que là, on se rend jusque-là. Fait que ça, c'était très beau.
Ben, y a quelqu'un là, qu'on connaît tous ici, en tout cas, que lui me parlait, il a rencontré une fille et pour elle, c'était impossible d'avoir une relation... intime avant 3 mois.
Ah.
3 mois de fréquentation avant d'avoir une relation intime.
Est-ce qu'on parle de psychorigidité ou juste de respect de ses valeurs?
Il me semble que c'est long.
Non, moi j'aurais le goût de dire que ça, c'est des valeurs.
Oui, mais imagine qu'il n'y a pas de fuite sexuelle.
Non, c'est ça, mais il faut enlever cette pression-là. Parce qu'en réalité, ça a des conséquences quand on partage trop vite notre sexualité avec...
Oui, ça c'est vrai, hein, semble-t-il.
Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne voient que le plaisir là-dedans, mais en réalité, ça aurait des conséquences là, avec ça. C'est comme diluer son intimité avec plein de gens. Ça fait comme rendre abrasif, frotter une place qui normalement est partagée que dans un climat de sécurité, de tendresse, de désir. Puis là, notre excitation nous dit, ben go, vas-y, ça, y a pas de conséquences, c'est juste le fun. Mais selon la recherche, ça magane la capacité d'engagement.
Tu perds un peu ton identité.
Ouais.
Arrive trop vite.
C'est ça, c'est comme si, on le voit aussi dans le remariage. Les gens qui se remarient, qui redivorcent, le remariage tend à être plus court que le premier mariage. Ils se remarient une troisième fois. Là, je parle pas de vous, les auditeurs. Là. Je parle en général. Là, selon
en
les
général, recherches. Arrêtez de tout prendre personnel.
Ouais, puis si vous sortez avec une fille qui veut pas consommer l'intimité avant 3 mois, puis finalement, après 3 mois, vous consommez l'intimité, puis c'est pas un fit, ben, il y a Gentleman Paradise.
Hey, c'est déjà la fin du show, les amis. C'est déjà terminé. Ça a passé encore une fois à la vitesse de l'éclair. Vous étiez très, très, très actifs sur le live, autant TikTok que sur le live de la station de radio. Vraiment, merci beaucoup. Doc, on te rejoint où, quand, comment?
Ben là, si les gens veulent prendre rendez-vous, c'est un peu comme à l'habitude. Hein, les gens, il faut qu'ils cherchent sur YouTube. Ben, sur YouTube. Sur Google. Docteur Paul Simard, psychologue.
Oui.
Sur YouTube aussi, j'ai plein de vidéos là-dessus. Puis ils vont trouver mes coordonnées partout. S'ils veulent prendre rendez-vous, je vais vous envoyer tous les détails en privé sur mon cadre de pratique avec les options, la consultation, formation, la manière de poser des questions, comme on a répondu ce soir. Là.
Oui.
Donc, il y a le lien sur mon site web, mais aussi sur le tien.
Absolument, lasexploratrice.com, MélanieTrudel.ca, voyons, je ne me rappelle plus de mon site. MélanieTrudel.ca. Et il y a des ateliers également en ligne. Vraiment, c'est un super concept là, que tu offres aux gens pour ceux qui voudraient aller chercher de l'information sans nécessairement consulter. Mais tu as toujours de la place. Donc,
plein d'options. Puis moi, je suis contre les listes d'attente. Fait que j'ai développé tout un écosystème là, pour aider les gens.
Est-ce que tu prends les fax?
Non, je ne prends pas les fax.
All right. Bienvenue en 2024.
Merci beaucoup, Dr Simard. Merci, Max. Toujours un plaisir de travailler à tes côtés.
Pareil,
merci, mon amoureux, d'être apparu comme ça sur le fly dans le show.
En nous stressant, là. J'ai fait un petit pipi nerveux.
On barre la porte la prochaine fois.
Va falloir que je lave la chaise en partant.
J'ai eu peur. Mais voilà, merci beaucoup tout le monde qui était sur le live TikTok et sur le live de Choix Radio X. Vous étiez à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de Choix 98.1 Radio X.
La Sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.